Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber mes affaires, comme j'en suis coutumière. Et voilà, ça commence. Merci, Mathieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. Nous fêtons la Pentecôte et donc j'ai choisi de vous parler de l'Esprit, du Saint-Esprit, dans ce message. Donc je vous invite à lire directement le texte du jour. Ah, c'est un peu petit, j'espère que vous arrivez à voir, mais je vais essayer de le lire à haute et claire voix. Donc c'est Actes 19, les versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. » « Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Donc, vous constatez que ce texte, ce n'est pas acte 2. Si vous vous attendiez à ce que je prêche sur acte 2, je suis désolée de vous décevoir. Mais lorsque j'ai relu ce passage dans le livre des actes il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que j'avais eu peu l'occasion de méditer dessus. C'est un tout petit bout d'une histoire dans acte. Et effectivement, lorsque nous parlons de Pentecôte et de Saint-Esprit, nous pensons automatiquement au chapitre 2 des Actes, qui nous relate l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants, marquant de son sceau la naissance de l'Église. Nous pourrions le relire encore, peut-être complètement en français cette fois-ci, et en tirer de nombreux enseignements. Pourtant, le passage que je propose à notre réflexion ce matin me semble tellement intéressant que je n'ai eu qu'une envie, le parcourir avec vous. Ce texte nous évoque les premiers balbutiements de l'Église primitive à Corinthe et à Éphèse. Il nous parle des différentes sortes de baptêmes, celui de Jean-Baptiste et celui au nom de Jésus-Christ. Et finalement, ces versets peuvent nous enseigner sur notre attitude personnelle face au Saint-Esprit et à son action dans notre vie. Alors, êtes-vous prêt à entamer ce voyage de découverte? Tout d'abord, ce chapitre 19 démarre sur des indications géographiques. Paul vient d'Antioche, donc c'est complètement au nord d'Israël. On voit Antioche et Séleucie. Et il démarre de là son troisième voyage missionnaire. La route la plus directe, ce serait de passer par la mer, c'est plus facile. Mais il n'emprunte pas cette route, il passe plus au nord pour rejoindre Éphèse, en empruntant la route qu'on appelle la route des marchands. Et ça lui permet ainsi de revisiter des communautés et de les encourager. À Tarse, à Derbe, à Lystre, à Iconium. Je pense que c'est des noms que vous avez déjà lus dans vos Bibles tout au long du livre des Actes. Paul est conscient que ces communautés ont besoin d'être affermies, de recevoir un solide enseignement. Il avait laissé Priscille et Aquilas à Éphèse à la fin de son deuxième voyage missionnaire. Donc si vous revenez un peu en arrière par rapport au texte que j'ai lu, c'est dans Actes 18, au verset 19. Et ceux-ci ne sont pas restés bras croisés, puisque dans cette ville, ils ont la possibilité d'enseigner un juif du nom d'Apollos. Ce dernier a bien compris le message de Jean-Baptiste qui avait enseigné de se repentir de ses péchés. Priscille et Aquilas peuvent alors lui exposer clairement toute la doctrine du salut, afin de lui permettre d'aller plus loin dans sa foi à la suite du Christ. Apollos, en fait, c'est une recrue de choix pour le royaume de Dieu. Il connaît bien les Écritures, car il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était une grande exactitude. Et vous trouvez ça dans Actes 18, au verset, dans les versets 26 à 28. Lorsqu'il brûle d'aller en Achaïe, Priscille et Aquilas l'encouragent, ils lui écrivent une lettre de mission. Alors pour tous ceux qui ne savent pas trop ce que c'est l'Achaïe, c'est tout simplement une province romaine qui fait partie de la Grèce, dont Corinthe est la capitale. Donc si Apollos part en Achaïe, en fait il part à Corinthe, il va visiter l'église de Corinthe. Et c'est une bénédiction pour les apôtres. Si vous connaissez les épîtres aux Corinthiens, rappelez-vous, en 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 1, Paul leur écrit « On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. » Ainsi, les Corinthiens vivent dans une grande liberté que la connaissance du Seigneur leur donne, que l'Esprit Saint leur accorde. Mais immergés dans la culture grecque païenne, ils ont besoin des bases solides de l'Écriture pour vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'Apollos, qui connaît parfaitement les Écritures, peut apporter sans aucune forme de doute. Apollos enseigne donc à Corinthe, et Paul peut désormais prendre du temps pour s'occuper des Éphésiens à qui il avait promis de revenir. Et ce qui me frappe dans ces deux situations, c'est le besoin de bonnes bases bibliques, qu'Apollos apporte donc avec brio par sa connaissance parfaite des Écritures à Corinthe, et le besoin de l'onction du Saint-Esprit sans laquelle notre foi ne peut se développer, ce que Paul peut partager avec discernement et efficacité. Tous deux, de base, ont reçu et reconnu le salut parfait en Jésus-Christ, et ce que ce passage nous montre est l'œuvre de Dieu qui désire que nous puissions travailler en équipe, chacun avec son appel particulier. Dieu veut équiper chacun de ses enfants, et pour cela, il missionne des hommes et des femmes qui peuvent œuvrer en synergie. En réfléchissant un peu plus loin, nous retrouvons aussi cela dans le sens de la Pentecôte même. En effet, avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte était une fête juive, nous l'avons rappelé grâce à Matthieu, qui avait lieu 50 jours après la Pâque. Cet événement était aussi appelé fête des prémices ou fête de la moisson. Et on y associait le souvenir du don de la loi au mont Sinaï, ce moment où Dieu fait alliance avec son peuple et qui lui donne les tables avec les 10 commandements. Le don du Saint-Esprit se fait donc en écho au don de la loi, et tout comme au Sinaï, il ouvre une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Avec ce rapprochement, on comprend mieux le caractère inédit de ce qui s'est vécu à la Pentecôte. Ainsi, à Corinthe et Éphèse, grâce à Apollos et à Paul, l'Église est affermie et enracinée de façon profonde et durable. Et cela est un exemple aussi pour nous. Nous ne devons pas seulement être bien enseignés, nous devons aussi laisser toute la place à l'œuvre de l'Esprit qui veut diriger toutes choses pour nous. Alors, dans le texte que je vous ai lu, il est aussi question de deux baptêmes différents. Et cela nous entraîne vers une nouvelle étape de notre cheminement. Oui, Paul évoque deux baptêmes. Déjà, je vous l'ai expliqué, à la fin du chapitre précédent, Paul et Aquilas ont dû expliquer plus précisément la voix de Dieu à Apollos. Celui-ci avait entendu le message de Jean-Baptiste qui appelait chacun à se repentir de ses péchés. Il s'était fait baptiser dans ce sens, ce qu'Apollos avait accepté. Mais il avait besoin que le Saint-Esprit intervienne puissamment en lui pour qu'il comprenne que la vie et la mort de Jésus-Christ, c'était l'aboutissement suprême du message de Jean-Baptiste. En reconnaissant que Jésus était mort pour le sauver, que tous ses péchés étaient vraiment pardonnés et qu'il pouvait vivre une vie nouvelle au service de son Seigneur, en le laissant maître de sa vie, en se laissant guider par le Saint-Esprit qu'il avait envoyé, il acceptait une nouvelle dimension pour sa vie. C'est Priscille et Aquilas qui ont contribué à lui révéler cette vie incroyable. Par l'action du Saint-Esprit, Apollos a pu reconnaître l'appel pressant que Dieu lui lançait pour aller enseigner les chrétiens de Corinthe. Il a alors pu accepter et entreprendre un ministère riche et béni dans cette ville. Mais il n'était pas question de nouveau baptême entre Priscille, Aquilas et Apollos. Paul, lorsqu'il rencontre les 12 disciples à Éphèse, s'interroge et les interroge sur la teneur du baptême qu'ils ont reçu. Eux aussi, tout comme l'avait fait Apollos avant eux, parlent du baptême de Jean, le Baptiste. Ces 12 Juifs croyaient en Jésus comme Messie, mais ne comprenaient pas la signification de sa mort et de sa résurrection. Ils avaient probablement appris de Jean que le Messie baptiserait de l'Esprit, mais ignoraient que cette prophétie s'était réalisée à la Pentecôte et que, dès ce moment, l'Esprit-Saint habite dans tous les croyants et les selles. Ils avaient entendu les avertissements et les menaces prononcées par Jean, mais ne connaissaient pas la grâce de Dieu en Jésus. Le baptême de Jean préparait la nation juive à accueillir le Messie sur la terre. Il n'était qu'un signe de repentance des péchés. Il devait réveiller les Juifs et leur donner conscience de leur état misérable réservé à la colère de Dieu. Le baptême d'eau chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a une toute autre signification. Il est un signe extérieur de l'identification du croyant avec sa mort. Nous retrouvons cela dans Romains chapitre 6, les versets 4 à 6. Dimanche prochain, nous allons vivre ce temps de baptême autour de 4 personnes, ici à l'église, et une personne à Paulhague, qui ont choisi de confier leur vie tout entière à Dieu. Nous croyons que par leur repentance et leur foi en Jésus-Christ, elles ont reçu le Saint-Esprit. Nous tous qui avons choisi ce chemin, qui affirmons être enfants de Dieu et nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est grâce à lui que nous pouvons proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. Il est parfois compliqué de parler de deux baptêmes à notre époque, comme cela s'est produit pour ces 12 Juifs. Celui qui est pratiqué dans nos communautés inclut ces deux dimensions. La repentance, la mort et le renoncement à notre ancienne vie, mais aussi la proclamation et la reconnaissance que Jésus est mort pour nous sauver et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. De nombreux théologiens se sont penchés sur la question de savoir si le Saint-Esprit se reçoit le jour de notre conversion, le jour de notre baptême, avant le baptême, après le baptême, s'il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alors vous vous posez peut-être ce genre de questions en m'écoutant ce matin. Mais je vais vous décevoir car je n'ai pas d'affirmation forte à vous proposer pour vous éclairer. La question suscite toujours des débats 2000 ans après la venue du Messie et continuera sans doute à faire couler encore beaucoup d'encre à l'avenir. La seule certitude que nous pouvons avoir, c'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples, celle de leur envoyer un consolateur, l'Esprit qui vient du Père, en Jean 15, verset 26. Je vous relis ce texte que nous trouvons dans Actes 2, versets 16 et 17. Quand sera venu le consolateur que... Non, le texte de Jean, pardon. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et cet esprit a été déversé sur tous les croyants à partir du jour de la Pentecôte. C'est là où nous relisons dans Acte 2, les versets 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est ce que Acte 2 nous a montré le jour de la Pentecôte, avec toutes ces personnes qui se sont mises à parler en plusieurs langues, qui se sont mises à prophétiser. Ainsi, la promesse de Jésus-Christ et la prophétie de Joël se sont accomplies. Mais finalement, personnellement, quelle est notre attitude particulière en ce qui concerne le Saint-Esprit ? Nous constatons un effet immédiat dans la vie des 12 disciples dès qu'ils le reçoivent. Ils se mettent à prophétiser et à parler dans d'autres langues, comme dans Acte 2. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ce qui a été prophétisé par Joël. Et nous pouvons alors nous poser une question. Est-ce que si nous ne parlons pas en diverses langues lorsque nous prions, si nous ne prophétisons pas de façon remarquable, est-ce que l'Esprit de Dieu habite vraiment en nous ? Nous pouvons nous tourner vers la lettre aux Galates et ce passage bien connu de la plupart des chrétiens. En effet, vous connaissez, j'espère, tous Galates 5, les versets 22-23 qui nous disent « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Alors si nous manifestons ces fruits dans notre vie, oui, le Saint-Esprit habite en nous. Et ce, depuis le jour de la Pentecôte où il a été répandu sur tous les croyants en Jésus-Christ. Depuis le jour où nous avons nous-mêmes reconnu sa vie en nous. Pourtant, nous pouvons constater que nous ne produisons pas tous un fruit, tel que décrit dans Galates ou dans d'autres passages bibliques, aussi visible, aussi intense, aussi éclatant les uns que les autres. Alors, pour nous faire comprendre un peu quelque chose, je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée dans un livre qui s'intitule « 50 histoires pour occasion spéciale tout au long de l'année ». Ce sont des histoires destinées aux enfants, normalement. L'auteur, c'est Linda Neyland, et on trouve ce livre aux éditions EBV et c'est ici. Je vous préviens que toute ressemblance avec des pensées ou des attitudes que vous connaissez bien est tout à fait volontaire et pas du tout fortuite. C'est l'histoire de Messire Grognon. Il était une fois un chevalier maussade qui vivait tout seul en haut d'une grande tour. On l'avait surnommé Messire Grognon parce qu'il se plaignait toujours de tout. De sa famille, de ses amis, de son travail, du temps et même de son anniversaire. Notre histoire commence à 9h du matin, le jour du 40e anniversaire de Messire Grognon. Donc c'est pas lui parce que lui il est un peu plus vieux. Le jour où le facteur arriva avec un paquet qu'il déposa devant sa porte d'entrée. La plupart des gens auraient été ravis de recevoir un paquet de la poste. Mais pas Messire Grognon, qui devait descendre 96 marches pour aller le chercher. Quelle barbe ! Je déteste les paquets, grommela-t-il. Ce colis contenait un cadeau d'anniversaire. Pour mon très cher grognon, de la part de sa tante Marilène, qu'il aime beaucoup, précisait l'étiquette. Sir Grognon entreprit de défaire l'emballage en se lamentant. « Ce sera des chaussettes, comme d'habitude, » grogna-t-il. « J'ai horreur des chaussettes. » Mais au grand étonnement de Messire Grognon, lorsqu'il souleva le couvercle, une superbe femelle perroquet, verte, bleue et jaune, s'envola à tire-d'aile. Il fut encore plus surpris de voir le volatile le trouver à son goût. Ses yeux noirs scintillèrent, elle le regarda droit dans les yeux et elle couina. « Salut, beau gars !» Choqué, Messire Grognon rabattit la visière de son casque devant son visage. Lorsqu'il la releva, elle le regardait toujours avec admiration. « Mon héros !» s'exclama-t-elle. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait un héros et cela lui mit du baume au cœur. Il remonta ses 96 marches avec son présent et décida d'écrire à sa tante Marilène pour la remercier de lui avoir envoyé un oiseau si intelligent. Ensuite, il décida de l'appeler Polly. P-O-2-L-Y. Le matin suivant, Messire Grognon se rendit en ville, entra dans un grand magasin et dépensa tout l'argent de son anniversaire pour acquérir une cage dorée, si splendide qu'elle avait même un tapis de velours et une baignoire juste à la taille d'un perroquet. Il ramena la cage chez lui et mit Polly à l'intérieur. Puis il recula et attendit. « Allez, vas-y, dis merci, Grognon, » fit-il en souriant. Mais bien que la cage fût luxueuse et qu'elle ait coûté une petite fortune, Polly ne dit pas un mot. Elle ne parla pas davantage le lendemain, ni le surlendemain, ni le jour suivant. À la fin de la semaine, Messire Grognon était tellement dégoûté du mutisme de Polly qu'il se rendit chez sa tante Marilène pour se plaindre. Il trouva sa petite vieille tante assise tranquillement auprès du feu avec son tricot. « Cette femelle perroquet que tu m'as donnée ne veut pas parler. Pire encore, elle a cessé de manger. Elle reste toujours couchée au fond de sa cage. » Lorsque tante Marilène entendit le mot « cage », elle se redressa d'un bond, saisit son sac de tricot et se mit à bombarder son neveu de pelotes de laine. « Chevalier stupide et égoïste » fulmina-t-elle. Puis elle se précipita dehors, sauta sur sa bicyclette et partit sur la route en pédalant à toute vitesse. Lorsque Messire Grognon rejoignit sa tour, elle était en haut de ses 96 marches et s'apprêtait à récupérer Polly. « Tu ne mérites pas ce beau perroquet » gronda-t-elle. « Je ne veux plus jamais te revoir !» De la fenêtre de sa tour, Messire Grognon les regarda partir. Tante Marilène était sur son vélo et Polly la suivait en voletant. Pardon. Bon débarras, murmura-t-il. Mais il n'en pensait pas un mot. En réalité, au fond de son cœur, il se sentait mal à l'aise. Et plus Polly s'éloignait, plus son malaise s'accroissait. Tout à coup, il ne put en supporter davantage. Il ouvrit toute grande la fenêtre de sa tour. « Reviens, Polly !» cria-t-il de toutes ses forces. « Je ferai n'importe quoi, oui, n'importe quoi pour arranger la situation. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'une chose merveilleuse se produisit. Polly fit demi-tour dans les airs et se mit à voler vers la tour. « Je ferai n'importe quoi !» continua à crier Messire Grognon. « Je me laverai derrière les oreilles, je rangerai ma chambre, je monterai et descendrai l'escalier 100 fois par jour !» Pendant ce temps, Polly avait atteint la fenêtre. « Pas de cage ! Pas de cage !» Queen a-t-elle. Bien sûr, la cage. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt ? Aussitôt, Messire Grognon saisit la cage dorée et la jeta de toutes ses forces en bas de l'escalier. Et lorsque la cage disparut, Polly revint pour de bon. Hurrah ! Messire Grognon sautait de joie. Oh, Polly, s'écria-t-il, à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Et c'est ce qui se passa. Dès lors, Messire Grognon cessa de se lamenter. Il laissa Polly voler là où elle voulait, se réconcilia avec sa tante Marilyn. Et il ne fallut pas longtemps pour qu'il fût rebaptisé Messire Gracieux. Il était devenu l'un des chevaliers les plus aimables, amicaux et cordiaux de toute la ville. Alors cette histoire était un peu longue, je vous le concède, et ça ne nous laisse plus beaucoup de temps pour réfléchir. C'est quand même un peu volontaire de ma part. J'ai imprimé quelques exemplaires de cette histoire, c'est sur la table du fond. Et si ça vous dit, vous pourrez la relire tranquillement chez vous pour y réfléchir, en pensant bien que c'est parce qu'on parle du Saint-Esprit ce matin. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça illustre bien ce qu'est parfois notre comportement vis-à-vis de l'Esprit de Dieu ? Lorsque nous nous convertissons, nous ressemblons à Messire Grognon, qui a reçu son cadeau d'anniversaire. Il se sent valorisé par les déclarations de Polly. Nous de même, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ et que nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes pleins de joie. Nous avons trouvé une famille, une identité, et nous nous laissons guider pour avancer avec nos frères et sœurs. Nous sommes même parfois intimidés par l'amour de Dieu ainsi manifesté et nous faisons taire toute volonté en nous pour nous soumettre à Dieu. Puis nous prenons un peu d'aplomb, nous laissons à nouveau parler notre intelligence sans remarquer que nous ne soumettons plus nos idées à Dieu. Le Saint-Esprit essaye bien de nous avertir, mais nous n'en faisons qu'à notre tête. Et nous sommes comme Messire Grognon qui achète une belle cage dorée à Polly. Est-ce que ce perroquet a demandé cela ? Est-ce que ça lui convient ? Certainement pas, mais on ne lui a pas demandé son avis. Alors Polly se tait, et le Saint-Esprit fait de même avec nous. Comme il nous respecte et nous laisse libres, il ne se manifeste plus pour ne pas nous gêner. Il ne nous parle plus, il ne nous enseigne plus. Il n'est pas là pour nous forcer. Nous reprenons nos vieilles habitudes. Nous devenons parfois même pires qu'avant. Comme Monsieur Grognon qui se fâche carrément avec sa tante. Jusque-là, il avait des liens avec elle. Maintenant, c'est même elle qui ne veut plus le voir. Nous sommes parfois même tellement éloignés de Dieu, sourds au Saint-Esprit, que nous croyons les mensonges du diable. Il nous dit que nous sommes trop méchants pour que Dieu se préoccupe encore de nous. D'ailleurs, Dieu s'est-il vraiment approché de nous ? Nous pouvons faire comme Messire Grognon, aller nous plaindre à Dieu, comme il est allé se plaindre à sa tante qui lui avait fait un si beau cadeau. Nous reprochons à Dieu nos propres erreurs. Heureusement, Dieu peut agir pour nous faire comprendre nos fautes comme tante Marilyn a tout de suite compris ce qui n'allait pas. Par sa façon de disposer les circonstances, Dieu, dans son amour, nous montre nos erreurs. Et si nous nous laissons interpeller, le Saint-Esprit nous parle à nouveau et nous guide dans la bonne direction. Alors vous avez entendu l'histoire jusqu'au bout, vous pouvez vous-même en tirer des leçons et appliquer tout ce que vous savez du Saint-Esprit aux différents rebondissements de ce récit. Je ne suis pas là pour faire une étude de texte sur un récit imaginé de toutes pièces. Revenons donc au texte que je vous ai lu ce matin pour conclure. Lors de notre cheminement dans Actes 19, 1 à 7, nous avons pu voir que l'Esprit Saint dirige les personnes vers ceux qui ont besoin de recevoir un enseignement selon la vérité, pour vivre leur vie en Christ. C'est ce qu'ont fait Priscille et Aquilas, Apollos, Paul et tant d'autres à leur suite. Nous avons vu que les 12 juifs avaient reçu un enseignement partiel et qu'ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit pour comprendre totalement ce qu'est le salut en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons reçu l'Esprit au moment de notre conversion. C'est ce que nous raconte l'histoire de la Pentecôte. C'est la réponse à la promesse faite par Jésus-Christ avant de mourir sur la croix. Et finalement, nous avons essayé comment nous pouvons malheureusement empêcher le Saint-Esprit d'agir dans nos vies, en n'écoutant pas les conseils qu'il nous donne, en agissant selon notre propre volonté. Les 12 juifs, eux, ont accepté pleinement et totalement l'action du Saint-Esprit en eux. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Alors, quel sera notre choix, votre choix ce matin ? Voulons-nous, dans notre vie, nous fier à notre sagesse et notre compréhension personnelle ? Ou bien voulons-nous laisser l'Esprit agir et nous emmener sur un chemin qui pourrait nous paraître incongru et qui pourtant est celui de la vérité de la vie en Jésus-Christ, où le Saint-Esprit peut nous assurer jour après jour que nous sommes là où il faut, comme il le faut. Avons-nous envie de le laisser évoluer en liberté dans nos vies, comme dans la première image que vous voyez sur cette dernière diapo? Ou préférons-nous le cadrer pour le faire voler nous-mêmes, comme il faut le faire pour le deuxième dessin? Cette illustration est tirée du livre « Pour une fois réfléchi » et je vous laisse méditer sur cette image. Quel Saint-Esprit voulez-vous laisser vivre en vous ? Amen.